Chapitre 6. Quelques mots sur la disposition de la malterie sont ici nécessaires. Bien qu'elle se trouvât, comme nous l'avons dit, au centre de la ville, elle s'étendait sur une assez vaste superficie. Rien ne la signalait à l'attention, sinon une grande porte, s'ouvrant et se refermant sans cesse. Cette porte, une fois franchie, on se trouvait dans une cour pavée, encombrée de chariots. Du crottin, des brindilles de paille, de foin, montraient le chemin que suivaient les chevaux une fois dételés. Ils passaient sous une voûte, traversaient d'autres cours, repassaient encore sous une voûte pour déboucher finalement sur une sorte de petite esplanade surplombant non pas la Saône, mais un ruisseau se faufilant entre les maisons, invisible des rues et des places publiques, la Bougonne. Il y avait là, à gauche, les écuries, à droite, des bâtiments en ruine, au milieu, un banc. Une brèche dans le parapet permettait de descendre par un raidillon jusqu'au lit du ruisseau. La malterie prenait fin à ce parapet. De l'autre côté de la Bougonne se dressaient de vieilles bâtisses dans un état de vétusté incroyable et pourtant habitées par une foule grouillante. Quand on débouchait sur l'esplanade et que tout à coup se présentait cet îlot plein de gens misérables, d'enfants, à côté un rempart derrière lequel pointaient les flèches de la cathédrale, on était frappé, non par le pittoresque de ce spectacle, mais par le fait que celui-ci fût un privilège de la malterie. Charles Digoin n'occupait pas son poste depuis un mois qu'on commença à remarquer qu'il se rendait plusieurs fois par jour sur cette esplanade, de préférence à partir de 3 heures de l'après-midi. Il n'y restait jamais plus de quelques minutes. Quelquefois, à peine de retour, il y retournait, mais toujours pour très peu de temps. Ce faisant, il marchait d'un pas lent, comme si rien de particulier ne l'attirait. Il revenait de la même façon. Au commencement, les ouvriers, qu'il avait très vite considérés comme une sorte de garde-chiourme, avaient pensé que c'était une façon détournée de les surveiller. Ils crurent cependant comprendre à la longue que Digoin ne recherchait que la solitude et que le zèle dont il semblait animé n'était pas sincère et ne lui servait que de prétexte. En effet, quand, au cours de ses petites promenades, il surprenait quelque chose d'anormal, il feignait de ne pas le voir, ce qui était assez singulier de la part d'un homme qui, en toute autre circonstance, ne laissait pas passer la plus légère faute. Il n'en fallut pas davantage pour lui valoir, malgré sa morgue, cette sorte de respect qu'inspire un chef lorsqu'il laisse paraître devant ses subordonnés des préoccupations étrangères au service. Les hommes qui se servent de la considération qu'ils inspirent pour mieux cacher des actes qui, s'ils venaient à être connus, leur vaudraient le mépris général, sont rares. Charles Digoin était pourtant de cela. La raison qui le conduisait au fond de la malterie était de celles qui ne peuvent s'avouer. En face du banc où il venait si souvent s'asseoir, la Bougonne formait un coude. Elle avait, avec le temps, démantelé les pierres contre lesquelles elle se jetait, si bien qu'elle avait fini par former là une excavation que les ménagères avaient adoptée comme lavoir. Charles semblait ne pas voir ses femmes. C'était cependant pour elles qu'il flânait sur la terrasse. C'était dans l'espoir que l'une d'elles, sachant qui il était, lui ferait une avance. Il ne doutait pas qu'elles en avaient toutes envie. Dans leurs misérables conditions, il lui apparaissait qu'elles ne pouvaient qu'entretenir le désir de bénéficier un jour de sa protection. Elle l'avait bien remarqué, mais elle n'avait pas soupçonné un instant ce qu'il attendait d'elle, ni qu'il vînt sur cette esplanade pour y faire autre chose que prendre un instant de repos. Pour ces femmes simples, un homme aussi correct, qui était directeur d'une malterie où tant de parents à elle rêvaient de travailler, ne pouvait avoir les moindres vues sur elle, puisqu'il les regardait à peine. Elle ne pouvait s'imaginer un instant que ce personnage dédaigneux attendait depuis des semaines qu'elle lui fît ce signe. Celle d'entre elles qui eût fait cette hypothèse eût été considérée comme une dévergondée ayant des idées de grandeur. Digoin, lui, dans sa vanité, était convaincu du contraire. Il s'imaginait que toutes les femmes ne pensaient individuellement qu'à lui, qu'elles se le cachaient, si bien que lorsque l'une d'elles levait les yeux vers lui, son cœur se mettait à battre avec une telle force qu'il suffoquait comme en plein vent. Il était absolument convaincu que ces laveuses venaient de plus en plus nombreuses à cause de lui, qu'il y avait entre elles, pauvres femmes, et lui, directeur de la malterie, une communion secrète. C'était pourquoi elle ne parlait pas de lui entre elles. Plusieurs fois, il avait failli faire signe le premier. Mais son désir en eût été amoindri. Ce qu'il attendait si patiemment, c'était que l'une d'elles lui fît signe la première, qu'elle ne pût résister davantage au désir de lui appartenir. Il avait pourtant ébauché plusieurs fois certains gestes, mais en regardant ailleurs, si bien qu'il n'avait pas su si ces gestes avaient été remarqués. Il faut dire en faveur de Charles Digoin que sa conduite lui apparaissait certaines fois dans tout son ridicule et dans toute sa laideur. Le brouillard se dissipait. Il respirait alors avec plus de régularité. Chaque objet revenait à sa place, aussi utile, aussi inoffensif qu'avant. Il comprenait que tout ce dont il avait été certain n'était qu'imagination, qu'aucune de ces femmes ne se souciait de lui. Il éprouvait un soulagement à ne s'être pas compromis. Il tirait un papier de sa poche, le lisait ostensiblement, puis, content d'être redevenu lui-même sans le concours d'un événement extérieur, l'arrivée d'un homme, par exemple, il retournait à ses occupations. On eût dit que les minutes qu'il venait de vivre n'avaient jamais existé. Il jouissait d'une manière enfantine du fonctionnement redevenu normal de ses facultés. Le fait de répondre à un simple salut l'emplissait de joie. Un après-midi, après une visite de ce genre au banc de l'Esplanade, il s'était remis au travail l'esprit libre. La Belgique et le nord de la France étant envahis, M. Ducardonnet ne savait comment se procurer de l'orge. Il y avait quelques années, son fils avait été en correspondance avec une malterie rivale située dans la région lyonnaise qui proposait une trêve à la concurrence dans l'intérêt commun. Aucune suite n'avait été donnée à ce désir. Il s'agissait ce jour-là de retrouver le dossier des lettres échangées, non pour reprendre une négociation au point où on l'avait laissée, mais pour éviter, au contraire, dans la démarche qu'on se proposait de tenter, toute analogie avec celle faite jadis par l'autre malterie. Charles Digoin était accroupi devant un classeur lorsque, soudain, une vapeur l'enveloppa. Il ne vit plus rien, ni les tiroirs ouverts, ni le bureau, ni sa secrétaire, ni les papiers épars sur le sol. Plusieurs bouffées de chaleur lui montèrent à la tête à intervalles rapprochés. Il éprouvait une envie irrésistible de se détendre, de s'allonger par terre. Il se leva, dit une phrase insignifiante pour cacher ce qui se passait en lui et qui était pourtant invisible. Sa secrétaire écrivait. Il s'approcha d'elle. Une seconde, la pensée de la prendre par les épaules, de la serrer contre lui, traversa son esprit. Mais le désirait-elle ? Non, elle n'avait aucune raison. Elle appartenait à une bonne famille bourgeoise de la ville. Il sortit en respirant par saccades. Il traversa les bureaux, se retrouva dans la cour. Déjà, il était lucide. On était en avril. La journée était grise, glaciale. À ce moment, il eut nettement conscience qu'il était maître de ses actes. Il revint sur ses pas, mais pour la première fois, une telle victoire ne lui causa aucune joie. On eût dit que la nature était déréglée. Il faisait froid en avril. Les passions n'obéissaient plus aux lois habituelles. Il remonta dans son bureau. Tout lui semblait ennuyeux. La perspective de se remettre à chercher des lettres lui causait un profond dégoût. Il était 5 heures. C'était le moment redoutable, celui où les laveuses partaient et où la dernière lui semblait s'être attardée pour lui. Il redescendit dans la cour, passa sous la première voûte, puis sous la seconde. La paix que donne aux maisons l'activité machinale des hommes planait sur la malterie. Celle-ci était, ce jour-là, semblable à ce qu'elle avait été il y a 20 ans, semblable sans doute à ce qu'elle serait dans 20 ans. Sa vie monotone se poursuivait. Le vaste terrain qui lui appartenait au centre de la ville et qu'elle n'occupait pas entièrement n'était toujours pas convoité par d'ambitieux voisins. Il arriva devant la bougonne. Les femmes avaient fini de laver. Elles tordaient leur linge, le mettaient sans le détordre dans des bassines, retournaient chez elles l'une après l'autre. Bientôt, il n'en resta plus qu'une. C'était une femme maigre, avec des cheveux noirs, des taches de rousseur dans le creux des tempes et sur les pommettes, avec de grands yeux qui surprenaient chez une personne occupée à pareille besogne, de grands yeux de tragédienne. Digoin s'assit, puis se leva aussitôt pour attirer l'attention. Le désir que cette femme lui montra par une expression, par un geste, qu'elle souhaitait qu'il s'approchât, était si violent qu'il devait serrer les dents, comme dans un effort physique, pour ne pas passer outre, pour ne pas courir vers cette femme, comme si elle l'y avait invitée. Soudain, soit qu'elle cherchât à se rappeler quelque chose, soit qu'elle prît un instant de repos avant de se charger de son linge, elle demeura immobile, les mains sur sa taille. Il regarda ses mains. Remuait-elle, ou bien s'imaginait-il seulement qu'elle remuait ? Quoi qu'il en fût, il eut à ce moment la certitude qu'elle pressait doucement la taille à intervalles réguliers. Quelques instants plus tard, sans qu'il sût comment il avait fait, il avait dévalé le raidillon, franchi le ruisseau en sautant d'une pierre à l'autre. Il se trouvait maintenant en face de la laveuse, tout à fait maître de lui. Elle le regardait avec étonnement. Il se retourna, de crainte que le palefrenier de la malterie ne le vît. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda la femme, sans montrer ce respect grâce auquel il avait pensé que tout lui serait facilité. Il avait peur à présent. Il crut habile de faire comprendre à cette femme qu'elle pouvait être compromise. « Vous m'avez appelé ?» demanda-t-il. « Moi, je vous ai appelé ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Elle prononça ces mots sur un tel ton de colère que Digoin n'eut plus qu'une pensée, se tirer au plus vite de ce mauvais pas. Bien que cela l'humiliât, lui, le mari de la nièce de M. Perroutet, le directeur de la malterie, il dit, espérant ainsi calmer cette femme, « Est-ce que vous voulez que je vous aide à porter votre linge ?»« C'est cela, au moins vous serez utile à quelque chose. » Il prit une anse de la bassine. Un escalier reliait le lavoir à une sorte de plateforme. Un soldat et un vieillard se tenaient sur cette plateforme. Digoin n'avait pas eu le temps de donner une explication à sa conduite. Il leva la tête, vit les deux hommes. Au même moment, il entendit la laveuse dire « Le voilà !» Il cherchait une entrée en matière lorsqu'un choc l'ébranla tout entier, un choc comme dans un accident. Il recula en titubant, glissa, se releva instinctivement, perdit pied de nouveau, puis finalement tomba d'une hauteur de 4 mètres sur les grosses pierres qui bordent la bougonne.